BFM Business, la France a tout pour réussir. Jérôme Tichit.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans la France a tout pour réussir. Chaque semaine, vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Et cette semaine, vous le voyez, une émission spéciale au Salon d'Agriculture qui a fermé ses portes dimanche dernier. Mais en fait, nous avons enregistré cette émission dans le Hall 4, quelques jours avant la fermeture, bien évidemment. C'était juste à côté, donc, du salon traditionnel qui est juste à côté. Et c'est ici, dans ce Hall 4, que s'est tenue la toute première édition du SIAPRO, un salon destiné aux professionnels. Dans un instant, Valérie Leroy, la directrice du Salon de l'Agriculture, nous dira pourquoi elle a voulu créer cet espace réservé à ce qu'on appelle le B2B. La transition écologique et énergétique fait en tout cas partie des thèmes qui ont été le plus débattus lors de ce SIAPRO, et notamment l'agrivoltaïsme. En clair, ce sont des panneaux solaires qui, à la fois, doivent améliorer la production agricole, mais aussi apporter un revenu aux exploitants grâce à l'énergie produite. On en parlera avec la présidente de la fédération de cette filière, mais aussi en nous arrêtant au stand d'Ombrea qui produit ce type de panneau et qui vient d'être racheté par Total Energy. Enfin, bien, nous verrons ce que l'intelligence artificielle peut aussi se mettre au service de l'agriculture. Est-ce qu'elle peut lui apporter ? On vous présentera donc les résultats d'un hackathon qui est consacré à ce sujet de l'intelligence artificielle au service de l'agriculture. Mais tout d'abord, et pour nous présenter plus en détail cette première édition du SIAPRO, j'ai le plaisir de retrouver la directrice du Salon de l'Agriculture. Bonjour Valérie Leroy.
Bonjour.
Pourquoi donc avoir lancé cette première édition du SIAPRO, cette édition réservée aux professionnels ?
Alors, l'idée, c'était de proposer aux professionnels qui viennent déjà sur le Salon de l'Agriculture faire du business, d'avoir un moment entre eux, 3 jours uniquement destinés au rendez-vous d'affaires et au networking. Et donc, c'était la raison, voilà, c'est notre raison principale et qui répond aussi à une demande, puisque dans les enquêtes qu'on a faites, quand on leur a demandé de quoi vous auriez besoin sur le SIA, en plus de ce qu'on vous propose d'une manière générale, ils nous ont demandé un moment entre eux spécifique.
Le Salon de l'Agriculture, c'est le règne du B2C, c'est ce qu'on appelle la rencontre du grand public avec la plus grande ferme de France. Vous estimez vraiment donc qu'il y a une place à côté de ce B2C pour faire du B2B, vraiment ?
Alors oui, il y a une place parce qu'en fait, il y a déjà beaucoup de business qui existent sur le salon. Par exemple, dans le secteur des animaux, les concours et les présentations amènent souvent à acheter des animaux. Il y a même des ventes aux enchères. Dans le hall des régions, on peut acheter plein de produits. Donc, il y a des professionnels aussi qui viennent acheter. Donc, il y a déjà un volume de business qui existe. Ce qui manquait, c'était la possibilité de faire un focus sur un moment et un temps fort et d'aborder des thèmes qui sont véritablement professionnels.
Et puis, peut-être ici, on est un peu plus à l'abri des polémiques et des politiques.
Oui, en partie, mais ça dépend des jours. Et on est surtout au cœur des principaux acteurs institutionnels de recherche, syndicaux, organisations, etc., qui permettent d'aborder des thèmes quand même plus professionnels que dans d'autres halls.
Le salon, dans sa globalité, c'est plus de 600 000 visiteurs, c'est 615 000 pour l'édition 2023. Vous espérez, entre guillemets, en capter combien, à peu près 10% pour qu'ils viennent vraiment ici, dans les allées du SIAPRO ?
Alors, on n'a pas fait d'objectif pour la première année. En revanche, ce qu'on sait, c'est que sur les 600 000 visiteurs, il y en a 60 000 qui nous disent venir aussi pour des raisons professionnelles. Donc, quand on est agriculteur, on peut avoir envie d'aller voir sa région et en même temps venir pour des raisons professionnelles. Et parmi ces 60 000, il y en a 32 000 qui nous disent venir que pour des raisons professionnelles. Donc, s'il y en a même 10% de cette part-là,
c'est déjà beaucoup.
Ça fait déjà pas mal.
Les principaux secteurs représentés, donc pour ce SIAPRO 2024.
Alors c'est les secteurs d'activité très actuels dans le monde agricole, c'est-à-dire l'agrivoltaïsme, les nouvelles technologies, les transitions vers le changement. Et puis là par exemple, il y a des ateliers pratiques qui se déroulent derrière nous, qui sont vraiment des choses extrêmement pragmatiques.
C'est le lieu donc ici des conférences et des tables rondes. C'était le lieu aussi dans la matinée. C'était une conférence TEDx qui a eu beaucoup de succès aussi. Hein.
C'est ça. Donc on a ouvert conférence inaugurale en format TEDx, donc 5 speakers, 20 minutes chacun, et puis une présentation originale dans le format de thèmes importants qui étaient les transitions.
Vous parliez de nouvelles technologies. Juste un mot sur le hackathon qui est aussi un des temps forts de ce SIAPRO 2024.
Oui, qui sera inauguré, qui lancera le marathon technologique qui pendant 48 heures va réunir des chercheurs, des spécialistes des nouvelles technologies pour trouver des solutions à proposer à des problématiques agricoles. Donc on a choisi 4 problématiques, dont une par exemple sur la conduite de troupeaux. Si vous êtes éleveur, vous avez des problématiques et donc ces recherches vont nous amener à proposer au moment de la restitution des solutions justement utilisant l'intelligence artificielle pour pouvoir répondre aux problématiques des éleveurs.
Toute dernière question, Valérie Leroy, est-ce qu'une édition 2025, une deuxième édition donc du SIAPRO est déjà dans les tuyaux?
Oui, mais alors deuxième j'espère, troisième, quatrième. Là c'est une première. On va observer comment ça fonctionne, on va moduler, on va adapter et il y en aura une en 2025, en 2026, etc.
Le rendez-vous est pris. Merci beaucoup Valérie Leroy. Merci. D'avoir été notre invitée pour cette émission spéciale. Vous parliez du hackathon à l'instant. Eh bien notre reporter Timothée Marouzet est présent donc à la récit des résultats. Voici son reportage.
Et en effet, Jérôme, je me trouve actuellement ici dans le hall 4 du Salon de l'Agriculture. Depuis 48 heures, ici, ce sont 8 équipes qui planchent sur des problèmes exprimés par les agriculteurs. Alors, à travers l'IA, ils vont tenter de leur proposer des solutions avec ce hackathon. En tout cas, c'est une première en France. Et ils vont, dans quelques minutes maintenant, restituer leurs idées devant le public, un jury et devant les agriculteurs concernés.
48 heures intenses, des dizaines de lignes de codage et une nuit très courte. Les participants ont tout donné dans ce hackathon organisé par la ferme Digital qui regroupe de nombreuses agritech françaises. Son vice-président David Joulin est confiant à moins de 20 minutes de la restitution du hackathon.
On a donc accueilli ici 8 équipes en présentiel, une quinzaine d'équipes en distanciel. Donc il y a 200 personnes qui ont travaillé sur ce sujet pendant moins de 48 heures. L'objectif, c'était de mesurer ce qui était capable de produire ces équipes-là avec la technologie Mistral en moins de 48 heures, utile au monde agricole.
Mistral AI est co-organisateur de l'événement. La start-up française qui compte parmi les leaders mondiaux de l'IA nouvelle génération a mis à disposition ses modèles d'IA open source pour les participants. Les équipes sont constituées d'agriculteurs, de data scientists et des membres de grands groupes comme Avril, Groupama, Crédit Agricole ou encore Auchan. Leur mission, tenter d'aider les agriculteurs sur la transmission d'exploitation, les achats et les ventes ou encore sur la gestion des troupeaux. Maguelone Paré, leader innovation chez Rizoa, fait partie de l'une des 8 équipes de ce hackathon.
On travaille en ce moment à un chatbot qui va permettre à un agriculteur de rassembler le maximum d'informations factuelles, tangibles et objectives pour préparer sa négociation avec un futur acheteur.
Place à la restitution après 2 jours de travail. Grâce à la rapidité offerte par le chatbot de Mistral AI, les équipes sont parvenues à développer une solution presque entièrement viable en 48 heures. Nous retrouvons David Joulin à l'issue de la présentation, satisfait de ce premier hackathon.
Alors je pense que le premier impact, c'est que beaucoup de personnes vont s'intéresser au sujet et vont s'en emparer et ça va accélérer terriblement les solutions.
Une satisfaction partagée par Valérie Leroy, la directrice du Salon de l'Agriculture.
Nous, notre objectif, c'est que le Salon de l'Agriculture soit à l'origine de solutions proposées qui intéressent des gros groupes agricoles et que donc le Salon joue son rôle d'apporteur de solutions, d'endroits où on réfléchit, où on peut se rencontrer et où finalement il sort quelque chose au-delà des 3 jours de SIAPRO une fois que ça sera terminé.
Et voilà, le hackathon 2024 touche à sa fin. Les équipes se sont présentées sur scène. Les entreprises les ont entendus, mais aussi le cabinet d'Agnès Pannier-Runacher qui était présent pour les entendre. En tout cas, il est fort probable qu'une deuxième édition de ce hackathon ait lieu ici, au même endroit, au SIA, en 2025.
Voilà donc pour ce hackathon et pour les solutions donc apportées par l'intelligence artificielle à certaines problématiques soulevées par les agriculteurs. On poursuit cette émission en parlant d'agrivoltaïsme. C'est un mot qui est en train d'émerger fortement dans le vocabulaire des agriculteurs en France. Derrière ce mot, il y a de nombreux enjeux à la fois écologiques et économiques. On va en parler avec vous. Bonjour Audrey Juillac.
Bonjour.
Vous êtes la présidente de la FFPA, c'est la Fédération Française des Producteurs Agrivoltaïques. Alors on va revenir dans quelques instants sur cette année 2023 marquée par une forte évolution du cadre réglementaire et législatif. Mais d'abord un peu de sémantique, c'est quoi précisément l'agrivoltaïsme ?
Alors l'agrivoltaïsme, c'est produire sur la même parcelle de l'électricité et de la nourriture, des ovins, voilà. Mais en gardant à l'esprit que l'agriculteur produit ce qui est agricole. Qui est agricultural, c'est ça, et l'énergéticien produit l'électricité. Voilà.
Et quels sont les avantages pour un exploitant? C'est quoi le but, on va dire d'un point de vue peut-être aussi économique, d'installer ces installations agrivoltaïques?
Alors, il y a plusieurs avantages. Effectivement, vous l'avez évoqué, il y a le bénéfice économique. Hein, ça fait un fonds de roulement par le biais de la location de la terre qui est mise à la disposition du développeur et de l'énergéticien. Et ensuite, il y a des bénéfices aussi du point de vue de la parcelle. On peut éviter, par exemple, des gelées trop fortes, des grêles trop fortes, une sécheresse trop importante qui brûlerait des légumes ou qui serait préjudiciable pour le bien-être animal. Il y a tout un tas de bénéfices qui peuvent être apportés également à la parcelle.
Sur la partie énergétique, est-ce qu'on produit pour sa propre exploitation? Et est-ce qu'on revend bien le surplus qui est produit?
Alors, on ne parle pas d'autoconsommation collective, hein, c'est plutôt des centrales, un peu à l'image des centrales nucléaires qu'on connaît déjà, où on produit de l'électricité qui est ensuite injectée sur le réseau par RTE et qui est distribuée ensuite aux consommateurs.
Alors, vous-même, vous êtes à la tête d'une exploitation dans le Lot et Garonne et vous avez recours évidemment à l'agrivoltaïsme. Vous, quels sont les avantages que vous y avez trouvés?
Alors, pour ma part, ça va m'aider à diversifier mon activité parce qu'on sait que l'activité agricole aujourd'hui est difficilement source de revenus, surtout quand on a une seule activité.
Et vous êtes-vous dans le maraîchage bio, hein, je crois?
Voilà, moi je suis dans le maraîchage et demain je vais pouvoir faire en plus du maraîchage des plantes médicinales. C'est une activité que je voulais développer mais je n'avais pas les moyens en investissement pour le faire. Et grâce à des projets comme l'agrivoltaïsme, ça va me permettre de dégager des fonds pour développer ce projet-là.
Je le disais il y a quelques instants, grosse évolution législative et réglementaire en 2023. C'est la loi APER qui a été votée il y a quelques mois. Donc APER, c'est accélération de la production d'énergie renouvelable. Très concrètement, qu'a apporté cette loi au secteur de l'agrivoltaïque?
Alors, en agrivoltaïsme en France, on vient un petit peu de loin. C'est quelque chose qui n'existait pas du tout dans la loi. Donc, on a eu, c'est vrai, une grosse année institutionnelle où on a dû définir dans la loi l'agrivoltaïsme, qu'est-ce que c'est. Donc, on a beaucoup travaillé dessus avec le législateur. Nous, ce qu'on avait à cœur de faire apparaître dans cette loi, c'est que c'est toujours l'agriculteur qui est au cœur du projet. On parle d'abord d'un projet agricole et ensuite la technique s'adapte à l'agriculture et pas l'inverse. Ce qui implique qu'il faut permettre une grosse innovation. On ne peut pas sortir un modèle qui va aller à tous les agriculteurs. Chaque agriculture est unique, chaque exploitation est unique. Donc, il faut autant presque de techniques que de projets. Donc, ça, c'est dans la loi. Il y a aussi les services rendus à la parcelle qui sont dans la loi et aussi l'importance d'une production agricole significative. Ça, c'est dans la loi, c'est vraiment les termes production agricole significative et revenu durable en étant issu. Voilà, ça veut dire ça. Qu'il faut produire de quelque chose sous les panneaux, il faut qu'il y ait une production agricole et il faut qu'il y ait un revenu durable qui en soit issu. Sinon, on n'est pas dans le cadre de l'agrivoltaïsme, c'est autre chose et ça, on comptait vraiment l'inscrire dans la loi.
Et dans les débats qui ont précédé cette loi, voilà, donc il y avait la part entre l'agriculture et le revenu énergétique. Vous nous dites bien clairement, il faut quand même que ça reste une exploitation agricole et le reste, voilà, c'est quoi? C'est du surplus financier, c'est un bonus pour survivre. Qu'est-ce que vous qualifieriez comment cette évolution des choses?
Alors, je pense qu'il faut considérer qu'aujourd'hui, l'agriculteur est aussi un chef d'entreprise, un entrepreneur. Donc, il faut diversifier les activités et l'agrivoltaïsme peut être une source de revenus qui peut permettre l'investissement, qui peut permettre un fonds de roulement, qui peut permettre aussi de pallier à des années blanches comme on a pu avoir à cause du gel, à cause du givre, à cause de plein de catastrophes naturelles qui vont être de plus en plus fréquentes. Donc, ça permet, comme on dit chez nous, d'avoir un peu d'eau sous la quille, hein, si vous me passez l'expression.
Mais c'est très clair.
Ça diversifie comme ça les ressources économiques de l'agriculteur et c'est hyper important aujourd'hui d'avoir une agriculture qui soit viable.
Et certains trouvent quand même cette loi un peu trop favorable à l'énergie. Quand je l'ai lu, donc, il y a le fameux niveau de densité autorisé par les panneaux solaires. Il a été fixé à 40%. On ne va pas trop rentrer dans les détails techniques, mais en gros, c'est la place qui est accordée aux panneaux solaires. Est-ce qu'in fine, il n'y a pas ce fameux risque de baisse de la productivité agricole, encore une fois, au profit de l'énergie? D'autant plus qu'on le sait, les énergéticiens savent faire ou sortir le chéquier quand il s'agit d'installer certains équipements.
Alors là, il y a plusieurs aspects qui sont intéressants. D'abord, si le projet agricole n'est pas possible parce qu'il y a trop de panneaux, au moment de l'instruction du projet, il y a ce qu'on appelle la CDPENAF, c'est un outil institutionnel qui va statuer sur le projet. Donc c'est lui qui va arrêter le projet là en disant agriculturellement ça passe pas. Mais on sait qu'avec 40%, on peut tout à fait avoir des rendements corrects. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut que le projet soit rentable pour l'énergéticien, c'est important, mais il faut aussi qu'il apporte des bénéfices à la parcelle. Si on a une parcelle qui est très peu couverte par des panneaux, quand il va grêler, la grêle, elle va pas se jeter sur les panneaux pour pas aller ailleurs. Donc il faut qu'il y ait une couverture qui soit suffisante de la parcelle, parce que sinon, ça servira pas à grand chose.
Il y aura des contrôles, hein, je crois, des zones témoins qui vont permettre de bien voir quelle est la part de chacune des deux activités.
C'est ça. Alors, il y aura des contrôles. Là-dessus, on est encore en train de travailler. On a des groupes de travail avec les différentes institutions, avec les différents syndicats aussi, avec le législateur, pour voir comment on va contrôler justement cette activité agricole. Est-ce qu'on parle par exemple, pour les ovins, est-ce qu'on parle de la quantité de fourrage à l'hectare? Est-ce qu'on parle du poids de la carcasse? De quoi vraiment est-ce qu'on parle? Donc là, on est encore en train de discuter dessus. On a une grosse phase institutionnelle encore qui arrive là-dessus.
Un mot, il nous reste 30 secondes sur les événements qui structurent votre filière. On est donc là au cœur du premier SIA Pro. Il y a eu les assises aussi du photovoltaïsme que vous avez organisé. Les premières, c'était à Tours au mois de décembre. Quel est l'événement de ce type de rendez-vous, d'événement pour fédérer la filière dont vous êtes la présidente?
Alors l'intérêt justement, c'est de fédérer, c'est de se faire connaître aussi. Il y a un gros enjeu de vulgarisation parce que le public ne connaît pas forcément et les agriculteurs ne connaissent pas forcément. Donc il y a un gros enjeu de vulgarisation. Et puis il y a aussi le dialogue avec les organisations professionnelles agricoles, avec les syndicats et aussi avec les instituts de recherche qui nous aident énormément à comprendre comment on peut allier effectivement production d'énergie et agriculture vertueuse.
Alors on l'aura compris, beaucoup d'enjeux financiers derrière cette nouvelle filière, et pour grandir, il n'y a pas de mystère. On l'a dit, il faut de l'argent, parfois beaucoup d'argent. Quand on est une jeune entreprise de l'agrivoltaïsme, eh bien, on a le choix entre une grosse levée de fonds. C'est ce qu'a fait TSE, basé près de Nice, avec une levée de 130 millions d'euros au mois de mai. Idem, toujours en mai 2023, avec DevENR en Occitanie, qui a levé 12,5 millions d'euros. Et puis, il y a ceux qui sont rachetés par des grands groupes. C'est le cas de SunAgri, qui s'est adossé au groupe Eiffage en 2022. C'est le cas aussi d'Ombrea, dont on va parler dans quelques instants, qui a été acheté par Total Energy au mois de septembre. En un mot, vous nous confirmez, Audrey, vraiment que l'argent, c'est aussi le nerf de la guerre pour progresser dans l'agrivoltaïsme?
Oui, et je crois qu'on l'a vu ces dernières semaines, c'est aussi le nerf de la guerre en agriculture. Il faut bien manger à la fin du mois, donc effectivement, ça fait partie des grosses problématiques aujourd'hui.
Merci beaucoup, donc Audrey Juillac, d'avoir été notre invitée. On se retrouve donc tout de suite à quelques mètres de là, au stand d'Ombrea. Et avant de nous rendre donc sur ce stand de Dombrea, quelques infos sur la société qui a été créée en 2016 à Aix-en-Provence et qui est spécialisée dans tous les équipements photovoltaïques qui permettent donc à la fois de créer de la production agricole mais aussi de la production énergétique. On va en parler avec notre invité. L'entreprise a été cofondée par un père et par sa fille, Christian Davico, qui est agriculteur, et Julie Davico-Pain, qui après quelques années dans le journalisme, notamment chez nos collègues de Radio France et de CNews, a été rattrapée par la terre, comme on dit, et elle a donc cofondé Ombrea en 2016 avec son père. Parmi les temps forts de l'entreprise, il y a eu une levée de fonds de 10 millions d'euros, c'était en 2021. Et puis, autre événement important, l'intégration à Total Energy en septembre dernier. Il faut savoir que le groupe accompagnait déjà Ombrea depuis 2019 et a donc décidé, il y a moins de 6 mois, de racheter toutes les parts pour en faire son fer de lance dans l'agrivoltaïsme. Ombrea fait aussi partie du Green 20, ce programme qui rassemble les start-up les plus prometteuse en matière d'innovation, de rupture pour la transition écologique. Et Ombrea emploie actuellement une quarantaine de personnes, parmi lesquelles Marie Collier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef de projet R&D chez Ombrea, que je viens de présenter, avec une absorption donc par le groupe Total Energy depuis septembre 2023. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que ça va changer pour l'entreprise?
Oui, alors aujourd'hui, à Ombrea, c'est le centre d'expertise en agri-énergie de Total Energy. Ça veut dire qu'on travaille au service du monde agricole pour proposer une solution à différents enjeux, des enjeux climatiques, des enjeux agronomiques, des enjeux environnementaux et des enjeux économiques aussi. Donc le cœur de métier d'Ombrea historiquement, c'est de pouvoir maîtriser des jeux d'ombrage pour apporter des solutions climatiques au service des cultures de plein champ. Et aujourd'hui, on a un catalogue de solutions. On essaye de transposer cette expertise à un maximum de filières. Et ces solutions, elles sont...
Lesquelles, par exemple? Voilà, donc on en voit là.
Ici, on en observe quelques-unes. On a des panneaux bifaciaux verticaux qui peuvent être facilement adaptés sur des cultures, des grandes cultures. On a les trackers surélevés et les panneaux fixes qui peuvent être également en grande culture ou pour la filière de l'élevage au service du bien-être animal notamment. Et les ombrières qui sont des structures très surélevées, assez hautes, qu'on met en place sur des vergers et qui ont différents avantages agronomiques. On a aujourd'hui une dizaine de démonstrateurs qui ont été installés à la fois sur des cultures, des grandes cultures, sur des cultures pérennes en arboriculture. Et on a pu mettre en avant sur un site en vigne une amélioration du confort hydrique de la vigne. Et donc une amélioration notamment de la qualité du vin derrière, avec une augmentation de l'acidité. En grande culture, on a, par un système vertical sur un site démonstrateur, on a pu également observer des augmentations de rendement en termes de quantité assez récemment.
Voilà. Et donc une dizaine de démonstrateurs dans la France entière, et est-ce que d'autres sont en cours de développement ?
Dans la France entière, a priori on n'aura pas d'autres démonstrateurs en développement. Une dizaine, ça nous permet quand même d'avoir du recul sur beaucoup, une bonne diversité de cultures. Et on fait un suivi scientifique entre 3 et 5 ans sur chacun de ces sites pour pouvoir suivre l'évolution donc sur différentes cultures année par année ou l'évolution sur des cultures pérennes dans le temps pour savoir si ces systèmes ont un impact plus long terme sur les cultures.
Vous parlez de différentes cultures, vous avez parlé, si j'ai bien entendu, parce qu'il y a un petit peu de bruit, de vignes, etc. C'est quoi les principales cultures concernées par les solutions Ombrea ?
Historiquement, Ombrea a été très concernée par les cultures spécialisées, donc tout ce qui est autour de l'arboriculture, la viticulture, les cultures horticoles. On a travaillé sur la pivoine en première intention. Et aujourd'hui, on se diversifie. Total Energy a apporté deux démonstrateurs en grande culture. Et on travaille également sur des cultures type maraîchage.
On en parlait il y a quelques instants avec Audrey Juillac, la présidente de la fédération. La loi APER qui a été votée en 2023, elle a mis un cadre, elle a mis un règlement, elle a mis de la législation. Est-ce que c'était important pour le secteur ? Est-ce que vous l'attendiez pour enfin mieux structurer cette filière ?
C'est important pour le secteur agricole d'avoir des règles clairement définies et qui soient à leur service. Chez Ombrea, on a toujours pris en compte l'agriculteur au centre du projet, c'est-à-dire qu'il participe au projet pour le choix de la technologie, le design du projet. On intègre également les territoires pour que le projet puisse être développé et être bien implanté sur le territoire, qu'il y ait une acceptabilité et une insertion paysagère prise en compte au plus tôt dans le projet. Et donc la loi APER nous permet de l'encadrer, et nous, on avait déjà anticipé finalement la plupart des engagements qui doivent être pris dans le cadre de cette loi.
Merci beaucoup Marie Collier. Je précise que Ombrea fait partie de la ferme digitale qui regroupe un très grand nombre d'agritech françaises. Merci d'ailleurs à la ferme digitale pour son soutien à la préparation de cette séquence. On va terminer cette émission spéciale ici donc au Salon Pro, au SIA Pro, en compagnie de Sébastien Gillet de JL Events pour parler de l'agroalimentaire. Bonjour Sébastien Gillet.
Bonjour Jérôme.
Vous êtes, en effet, on vous connaît bien sur BFM Business, le directeur de la branche qui est dédiée au salon spécifiquement industrie au sein de JL Events. Alors dans cette émission, on a parlé longuement de l'importance du business pour l'agriculture, on a parlé complément de revenus, on a parlé exigences écologiques, on a parlé de l'apport des nouvelles technologies pour les exploitants. Une transition toute trouvée pour parler d'une autre thématique business, celle de l'agroalimentaire. Et donc nous serons présents la semaine prochaine au CEFIA. Rappelez-nous ce qu'est le CEFIA, Sébastien.
Le CEFIA, c'est le carrefour des fournisseurs industriels agroalimentaires. Donc, si vous voulez, par rapport à l'agriculture, nous sommes en amont parce que nous, on transforme les produits pour qu'on puisse les consommer. Et on va fêter donc la 27e édition à Rennes, berceau de l'agroalimentaire en France et en Europe. Et je le rappelle, bien sûr, le premier secteur industriel français.
Le premier secteur devant même l'aéronautique. Hein,
c'est devant même l'aéronautique par rapport au chiffre d'affaires et par rapport aussi au nombre de salariés. On se parle de 500 000 salariés en France.
Donc, vous l'avez dit, la 27e édition. Pour cette édition 2024, est-ce qu'il y a des thématiques qui émergent ?
Bien sûr, les thématiques qui émergent dans l'agroalimentaire, c'est bien sûr le manger le clean label. On a besoin de rassurer toujours les consommateurs sur ce qu'on mange, sur la traçabilité des produits. On a bien sûr toute la partie emballage. Je crois que l'emballage aujourd'hui est un vrai sujet majeur sur les 10, 15, 20 prochaines années, notamment avec la réutilisation de l'emballage, le recyclable et le réemploi, et bien sûr aussi sur la partie process où l'intelligence artificielle fait son entrée, si j'ose dire, dans l'agroalimentaire depuis quelques années. Donc ça sera bien sûr mis à l'honneur sur cette édition du CEFIA.
Et trois grands secteurs comme chaque année.
l'emballage et conditionnement, le process équipement et bien sûr les ingrédients PAI, une nouvelle fois pour rassurer le consommateur sur les produits propres, végétal. Le végétal fait aussi de plus en plus un grand pas dans les assiettes.
Les chiffres clés de cette édition 2024, combien d'exposants attendus?
C'est 1700 exposants, c'est 100 de plus que l'année dernière. On ne peut pas grandir plus à Rennes parce que c'est un parc, une configuration plutôt de province, mais on a agrandi avec des start-up. Ce sera une nouveauté pour l'édition, cette 27e édition. Et on attend à peu près 20 000 visiteurs, principalement du professionnel.
Et le nombre de visiteurs, donc vous m'avez dit une vingtaine de mille, c'est le niveau de 2023?
On revient à ce niveau 2023 et surtout on revient sur les chiffres d'avant-crise, c'est important. Vous savez que notre métier a été un peu chahuté. Une nouveauté aussi, c'est place aux jeunes, place au métier de demain. Donc on accueille aussi 1500 jeunes, 2000 jeunes avec une animation qui s'appelle Food Talents qu'on va organiser sur la troisième journée pour montrer les différents métiers de l'agroalimentaire de demain.
Et vous parliez des start-up. Les start-up les plus innovantes auront même leur propre espace de 300 mètres carrés.
Exactement, parce que les start-up, elles ont une agilité, elles ont un côté innovateur qu'on a en recherche dans l'industrie agroalimentaire. On n'en avait pas l'an dernier. C'est une aussi des nouveautés de cette 27e édition.
On retrouve les trophées de l'innovation comme à chaque CEFIA.
Toujours plus 100 innovations. C'est un chiffre aussi qui est intéressant. En 27 ans, nous avons fait plus de 2000 innovations qui sont sorties du CEFIA, principalement qui sont aujourd'hui dans les rayons, si j'ose dire. Mais une nouvelle fois, comme je l'ai dit en introduction, l'intelligence artificielle fait son entrée dans les trophées innovation du CEFIA.
BFM Business sera bien sûr représent sur cette édition 2024 avec l'émission La France a tout pour réussir. Je suis ravi de transmettre les clés pour cette émission à Stéphanie Collot avec une émission. Alors le casting est en train d'être finalisé, mais je crois qu'il y aura quand même deux entreprises tendances. Est-ce que vous en savez plus déjà sur ce casting?
En tout cas, on vous remercie parce que c'est une première fois qu'il y aura une émission en live de BFM Business sur le salon. Donc ça veut dire qu'on met aussi un coup de projecteur sur cette industrie agroalimentaire. Et en effet, nous, notre souhait, c'est de montrer la souveraineté alimentaire. Elle est traitée à travers les politiques. Et on veut aussi la traduire à travers le salon, donc avec des industriels. On espère, dans un peut-être un vieux rêve, aussi des distributeurs. Vous comprenez bien que c'est l'actualité. Mais ça, une nouvelle fois, on est encore à une semaine du salon, donc tout n'est pas encore bien figé.
Et ce sera donc, merci beaucoup Sébastien Gillet, ce sera donc le mardi 12 mars en direct à 13h sur BFM Business avec Stéphanie Collot. Il y aura aussi de multi-rediffusions, donc à partir du vendredi 15 mars, toujours bien sûr, sur BFM Business, télé, radio et digital. Et moi, je vous retrouverai la semaine suivante, le vendredi 22 mars, pour un nouveau numéro de La France a tout pour réussir. Vous y participerez d'ailleurs, parce qu'on sera à quelques jours de Global Industrie.
On ne se quitte plus.
L'événement majeur, évidemment, de l'industrie en France, où BFM Business sera également présent. À toutes et à tous, une très bonne journée, un très bon week-end et à très bientôt sur BFM Business.
BFM Business, la France a tout pour réussir.